Bonsoir à toutes et à tous. C'est vendredi, c'est le Club des idées du grain. Ce soir, comment répondre à la colère du peuple? Et si le mouvement des gilets jaunes faisait pchit? S'il n'y avait personne demain, en tout cas pas grand monde, pour manifester et bloquer les routes? Alors, l'hypothèse est peu probable, mais si jamais elle devait se vérifier, au moins pourrons-nous dire, a posteriori, que nous l'avions envisagé. Alors, cette précaution oratoire étant prise, venons-en à cette journée du 17 novembre. Rarement une date de mobilisation sociale aura eu une telle notoriété avant même d'avoir eu lieu. C'est que le mouvement des Gilets jaunes semble devoir incarner ce rendez-vous annoncé depuis de longs mois, voire des années, celui d'une colère rentrée qui finit enfin par éclater. Le problème avec celle-ci, c'est qu'elle paraît incontrôlée. Son développement s'est fait en dehors des structures intermédiaires que sont les syndicats et les partis politiques. Il n'y a pas à proprement parler de revendications précises. Le gouvernement n'est donc réduit à apporter des bouts de réponse qui, pour l'instant, ne font qu'exaspérer encore un peu plus les nombreux porte-parole de ce mouvement. Alors comment répondre à la colère du peuple? Eh bien, on écoute justement cette colère.
Moi j'ai 1622 et j'ai 30 euros de moins sur ma retraite par mois. J'ai un loyer de 826 euros, c'est la moitié de ma retraite. Donc il y a de quoi être en colère.
On est toujours en train de compter. Il faut qu'on se prive. Il y a des choses qu'on ne peut pas acheter. Tout ce qui est pâtisserie, tout ce qui est... On ne s'en paye pas, jamais. Que le gouvernement arrête de nous piquer des fonds.
Sentez le malaise qui monte de Paris.
Je le sens.
Sentez-le.
Moi,
parce que vous allez le sentir le 17 novembre. Vous allez le sentir en France.
Je le sens chaque jour et j'ai pas attendu.
Bah moi je suis d'aucun parti politique, c'est que c'est pas normal qu'on paye 1,60€ le litre d'essence quoi.
Personnellement, je suis touchée par rapport à mon budget.
C'est quand même gravissime, on est dans un pays où pour se faire entendre, il faut faire une grève de la faim dans le milieu hospitalier. Pas pour avoir des augmentations de salaire, pour avoir des postes en plus, pour pouvoir juste soigner les gens.
On a eu des conquêtes sociales dans ce pays alors que l'économie était... moins flamboyante qu'aujourd'hui, c'était possible, et ça a été possible, ça a été rendu possible, parce que les salariés se sont unis, parce qu'il y a eu un rapport de force dans ce pays. C'est ce qu'il nous faut aujourd'hui.
Il faut que les politiques sachent que les choses ne peuvent plus continuer comme avant.
Voilà quelques illustrations de cette colère dans ce mix signé par notre réalisateur Alexandre Fougeron. Colère qui ne concerne pas, vous l'aurez compris, uniquement les Gilets jaunes, même si c'est de celle-ci dont nous allons essentiellement discuter ce soir en compagnie de deux des membres de notre club. Laetitia Stroche-Bonnard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes essayiste, responsable éditoriale de Phébé, la revue qui était éditée par le magazine Le Point. Pour discuter avec vous, Anastasia Colosimo, bonsoir.
Bonsoir.
Politologue, enseignante en théologie politique à Sciences Po. Et puis comme chaque vendredi, un invité du club, il s'agit de Pierre Jacquemin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, rédacteur en chef de la revue Regard, revue trimestrielle, pas seulement d'ailleurs, parce que vous avez aussi des lettres quotidiennes, entre autres. Revue dont la ligne éditoriale est ancrée à gauche, ça c'est ce qu'on peut lire par exemple sur Wikipédia. Alors commençons par évidemment évoquer cette colère, essayer de la caractériser avant de voir comment y répondre. C'est vrai que ça fait, comme je le disais en introduction, de longs mois qu'on parle d'un pays, la France, comme étant un pays au bord de la crise de nerfs. Et, semble-t-il, cette crise, elle finit par s'exprimer de manière très visible. Il faut attendre, bien sûr, demain pour voir quelle ampleur ça aura. Mais à la faveur de ce mouvement des Gilets jaunes. Pourquoi est-ce que ça intervient maintenant, à votre avis, Pierre Jacquemin?
Parce que d'abord, je pense que la colère existe depuis de longues années. Il y a une succession de politiques qui ont été menées et qui ont conduit à peu près au même résultat. Donc la colère grandit petit à petit. Elle grandit et surtout, elle prend des formes très diverses, y compris sous François Hollande. D'ailleurs, on a vu des mouvements se créer qui étaient des mouvements inédits, comme Nuit debout avec des occupations de places publiques. Et puis aujourd'hui, je pense que on arrive à un moment où on est presque dans une crise démocratique, où on a un président de la République qui a pu susciter un intérêt, qui a pu susciter un espoir. D'ailleurs, je pense que chez les électeurs d'Emmanuel Macron, il y a eu beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir. Et finalement, on s'est aperçu très vite qu'au bout d'un an, la politique menée par Emmanuel Macron n'avait pas véritablement changé non seulement la donne, mais non plus n'avait pas été radicalement différente telle qu'il avait pu lui-même l'annoncer lorsqu'il était candidat. Donc je pense que cette colère grandit. On voit bien, j'entendais dans la petite séquence que vous avez diffusée, une personne qui disait on a connu des périodes très très peu confortables sur un plan économique et en même temps on a réussi à conduire des conquêtes sociales qui sont sont la base de notre modèle social aujourd'hui en France. Et aujourd'hui, alors qu'on n'a jamais autant créé de richesses, on s'aperçoit finalement que les gens vivent moins bien, ou en tout cas les gens vivent dans une précarité de plus en plus importante. La population est de plus en plus paupérisée. On voit même, pour reprendre des événements récents, des immeubles s'effondrer. Donc ça veut dire que la structure sociale de notre pays, qui tenait quand même plutôt bon, n'est pas aujourd'hui suffisamment investie, ou en tout cas n'est suffisamment investie, c'est-à-dire au sens où on fait un pari sur l'avenir, on investit dans des infrastructures, on investit sur les gens, et aujourd'hui les gens se sentent totalement dépossédés, et ils voient les inégalités augmenter, et ça a créé une crise qui est une colère qui est en train d'émerger. Oui.
On pourrait dire, Laetitia Strauss-Bonnard, qu'il y avait des fissures qui apparaissaient au niveau de l'état social, disons, de la France, et qu'aujourd'hui ces fissures, elles sont peut-être en train de s'agrandir, et on ne sait pas très bien d'ailleurs ce que va donner ce mouvement, et on voit bien à quel point d'ailleurs notamment le gouvernement est inquiet de savoir comment ça va évoluer.
Alors tout à fait, là vous parlez du fond du mouvement. Juste avant de parler du fond, j'aurais voulu dire un mot sur la forme, qui est assez intéressante, parce que c'est une forme désintermédiée déjà. C'est l'idée qu'on va se révolter, on va exprimer une revendication, d'ailleurs qui n'est pas très claire, c'est plutôt une émotion, en n'utilisant pas les intermédiaires habituels, que sont les partis politiques ou les syndicats. Et je trouve ça assez ironique, parce que c'est une forme de réponse à la désintermédiation qu'était Emmanuel Macron, qui lui voulait se débarrasser des partis et des organisations déjà instituées. Donc c'est une forme de pied de nez un petit peu ironique. Après En Marche, eh bien, il y a les Gilets jaunes, c'est la colère, la revendication qui s'exprime directement. Exactement. Alors, ceci étant dit, sur le fond, pour moi, il y a deux éléments importants. Il y a la révolte fiscale, et puis il y a le clivage qui est croissant entre les grandes villes et ce qu'on peut appeler la France périphérique, mais on peut l'appeler autrement si vous voulez. Sur la révolte fiscale, en fait, c'est assez ancien. La France est un pays de révolte fiscale, et donc, d'une certaine façon... assez régulièrement, cette révolte s'exprime parce que la fiscalité est très très forte en France. Et si on regarde les pays de l'OCDE, aujourd'hui la France, hein, c'est le pays qui est, je crois, au deuxième rang, hein, de la taxation, qui est aussi au deuxième rang des dépenses publiques. Et je pense que cette révolte, celle des Gilets jaunes, exprime le fait suivant. Les gens ont l'impression de payer beaucoup d'impôts et ils ne voient pas forcément les résultats de ces impôts dans les dépenses publiques autour d'eux. Parce qu'ils ont l'impression que les infrastructures publiques, en fait, se délitent.
Vous n'avez pas l'impression, Laetitia Strauss-Bonnard, que davantage qu'un mouvement de rejet, disons, de l'impôt, c'est plutôt un mouvement de constat d'une baisse ou d'une stagnation du pouvoir d'achat, ce qui n'est pas tout à fait la même chose?
Alors, pour moi, c'est plutôt un rejet de l'impôt comparé à la dépense qui suit. Je ne pense pas qu'il y ait un rejet absolu de l'impôt. Mais quand les gens comparent ce qu'ils payent et ce qu'ils reçoivent en échange, eh bien, ils s'estiment lésés.
Anastasia Colosimo, pourquoi ce mouvement, aujourd'hui, semble prendre de manière aussi spectaculaire ?
Déjà, je pense qu'il ne faut pas, effectivement... il y a eu beaucoup de mouvements, hein, sous François Hollande, il y en a toujours. On peut pas dire que c'est tout à fait inédit en France d'avoir un mouvement même de ce type-là, une grogne sociale extrêmement forte. Il y a encore, là, au début de l'année scolaire, on parlait de la grande grogne sociale, les infirmières sont sorties, les EHPAD, etc. Donc, on peut pas non plus dire que c'est un inédit total.
Mais ça restait assez catégoriel quand même.
C'était très sectoriel. Là, ce qui est intéressant, c'est que ça n'est pas du tout sectoriel. Pour le coup, là, c'est vraiment, le peuple. Moi, je crois au fait que le peuple, ça existe. Et je pense que le peuple se révolte. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit précédemment. J'ajouterais peut-être que ce qui est intéressant, c'est vraiment la question des priorités. C'est-à-dire que les Gilets jaunes, ils sortent pour dire « Mais en fait, nous, la transition écologique, ça n'est pas du tout notre priorité. Parce que notre priorité, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir payer l'électricité à la fin du mois? Comment est-ce qu'on va pouvoir payer l'essence pour aller à notre travail qui, généralement, est un travail assez pourri, assez mal payé? Et donc, la transition écologique, le réchauffement climatique, c'est une question de riche. Parce que vous avez le temps de vous préoccuper de l'avenir, du futur, etc. Nous, c'est notre présent qui nous inquiète, et même notre quotidien, et notre quotidien pressant. Et donc je trouve que cette différence-là de priorité, c'est ça que marque ce mouvement-là, et qui est un peu la particularité de ce mouvement-là, c'est que c'est le premier mouvement qui dit quand même assez explicitement, mais vous vous trompez de priorité, ou plutôt, vous avez des priorités qui sont pas les nôtres, et vous agissez en notre nom, mais en réalité, nous, c'est pas de ça dont nous avons besoin, ou en tout cas, pour nous, ça n'est pas la priorité.
Mais pardonnez-moi, mais alors je vous pose la question à tous les trois, mais par rapport aux analyses qui sont les vôtres, Nassia Zaccolosimo, Pierre Jacquemin et Laetitia Strauss-Bonnard, c'est-à-dire il y a un discours, alors j'ai entendu notamment, par exemple, donc en gros, d'un côté, les pauvres face aux riches, enfin en tout cas ça peut être ressenti comme ça, la France des villes face à ce qu'on appelle la France périphérique, quelque chose évidemment, alors qui est porté par le géographe Christophe Guillouis, mais qui est énormément repris aujourd'hui dans le discours politique. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté performatif de ce discours-là qui fait que, au sein de la société française, on finit par adhérer à cette idée qu'il y aurait une France coupée en deux, alors que, si on regarde de près, ça n'est peut-être pas aussi clair que ça, Pierre Jacquemin?
Je ne sais pas s'il y a une France coupée en deux. En revanche, il y a clairement une analyse de la situation entre les gouvernants et les gouvernés, le fameux « eux » et « nous », cette somme d'individus qui seraient les laissés pour compte et les gens qui subissent les politiques libérales de plusieurs quinquennats précédents. Moi, ce que je trouve quand même qui doit nous interroger et qui doit nous interpeller, c'est la forme, encore une fois, que prend cette mobilisation et surtout d'où elle vient. Et c'est là où on doit s'interroger effectivement sur la sociologie de cette mobilisation. Quand on voit par exemple qu'aujourd'hui une manifestation politique, quand c'est à l'appel de partis politiques, je me souviens Jean-Luc Mélenchon par exemple annonçait le million de personnes qui allaient déferler sur les Champs-Élysées, et que finalement il n'y arrive pas, que les syndicats n'y arrivent pas non plus. Il y a eu quand même des grandes mobilisations qui n'ont pas abouti, hein, sur la loi travail, sur récemment, effectivement, on parlait des EHPAD, il y a aussi plusieurs secteurs de l'activité économique se sont mobilisés sans qu'il y ait eu de véritablement de succès. Donc il y a un échec, un effondrement quand même des partis politiques et des syndicats. Et de voir qu'effectivement, une initiative personnelle, individuelle, une jeune fille qui se met à faire une pétition sur change.org qui recueille 1 million de signataires, ça doit nous interroger. Parce que c'est quoi la logique qui résulte de tout ça? C'est justement, est-ce que c'est cette volonté de dire nous sommes les laissés pour compte et nous ne sommes pas entendus et nous avons besoin de nous faire entendre, et donc c'est une démarche individuelle. Mais quand je dis qu'il faut qu'on s'interroge, c'est de quels sont les moteurs de la colère.
Mais est-ce que vous diriez, Pierre Jacquemin, que les personnes qui auraient peut-être dû se sentir davantage concernées, par exemple par la réforme du droit de travail, et qui ne se sont pas mobilisées, ne sont pas les mêmes que celles qui aujourd'hui se mobilisent à travers les gilets jaunes? Ou bien est-ce que ce serait la même sociologie, disons, mais avec des thèmes qui portent davantage dans un cas que dans l'autre?
Je pense que le thème qui est celui du carburant, qui est celui du pouvoir d'achat, qui est celui de comment je paye mon essence pour aller au travail, quand je paye mon loyer, quand j'ai pas l'argent suffisant à la fin du mois pour pouvoir vivre, tout simplement. Oui, je pense que ce sont des thèmes qui sont des thèmes fédérateurs, ce sont des thèmes très sectoriels. Ça ne fait pas avancer le schmilblick, c'est-à-dire que derrière, effectivement, il y a une révolte qui s'impose, il y a une exaspération générale, il y a peut-être aussi beaucoup de ressentiment, ce qui peut conduire d'ailleurs à des dérives, et on le voit bien aujourd'hui que le Rassemblement national a été le premier parti politique à se rejoindre, de la mobilisation. Ça c'est inédit quand même d'ailleurs. C'est juste de s'apercevoir que le Front National est rentré en premier dans cette mobilisation et les autres partis politiques ont suivi. C'est-à-dire qu'il y a eu un avant et un après. Et ça, c'est assez inédit. Mais encore une fois, j'ai pas répondu à votre question, pardon, mais juste la colère qui s'exprime, qui est la colère individuelle, l'agrégation des individus, ce fameux « eux » contre « nous », elle paraît légitime, elle est présente. La question, c'est quelle traduction et quelle alternative politique au bout de tout ça?
Ce « eux » contre « nous », donc vous en disiez un mot tout à l'heure, Laetitia Strauss-Bonnard, c'est-à-dire voilà, France périphérique versus le reste de la France. Mais si on regarde, par exemple, l'adhésion qui est celle qui est manifestée dans les enquêtes d'opinion par rapport à ce mouvement, elle est extrêmement large et je ne suis pas sûr qu'elle recoupe justement ce découpage-là.
Mais bien sûr, mais c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de révolte fiscale, parce que je pense que le ras-le-bol fiscal, il touche beaucoup plus de catégories. C'est très diffus, c'est très général et c'est à tous les étages hein, aujourd'hui de la société. Et je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire c'est un petit peu trop simpliste peut-être de dire voilà, il y a la grande capitale, il y a la France périphérique et personne n'est content dans la France périphérique. Évidemment, ça n'est pas le cas.
D'autant qu'on a pu voir par exemple à Marseille que la pauvreté, la précarité, ça existait aussi en centre-ville.
Hein, mais bien entendu, à la périphérie. On le sait, les grandes villes sont des lieux extrêmement inégalitaires et ça dans le monde entier. En revanche, il y a quelque chose qui revient très souvent aujourd'hui. Quand on entend les commentaires, c'est l'impression d'être méprisé. Je ne dis pas qu'il faut prendre toutes les impressions au sérieux. Évidemment, la politique ne peut pas être que de l'émotion et du ressenti, sinon on n'en aura jamais fini. Mais je trouve que c'est assez inquiétant. C'est d'ailleurs une critique qui est adressée essentiellement au président de la République. Et on lui reproche d'être hautain. Et j'ai l'impression qu'en fait, qu'il fait deux choses qu'il ne devrait pas faire. Parfois, il est démagogique. Il nous dit qu'on peut tous devenir milliardaires, et puis demain, tout ira mieux grâce à l'État. Et puis voilà, je suis suit l'espoir. Et puis, la minute d'après, il est très hautain. Il dit des choses qui sont extrêmement gênantes, hein, et auxquelles tout le monde réagit. Mais il devrait faire le contraire. Je pense qu'il devrait être beaucoup moins démagogique. Il devrait garder cette distance, cette verticalité, hein, dont il se prévaut, mais qu'il n'a pas réellement. Et en même temps, montrer qu'il s'intéresse réellement aux gens. Et on le voit dans les déplacements. Ce qui est frappant quand on lit les reportages, je crois que c'était au moment des commémorations de son itinérance mémorielle, bon, quel nom affreux, eh bien, on vidait la ville pour le laisser passer et son équipe. Mais il n'est pas proche des gens s'il fait ça.
Anastasia Colosimo.
Moi, je voulais revenir sur votre question et signaler que vous avez fait une excellente émission le 8 novembre sur justement la sociologie des Gilets jaunes et surtout...
Depuis que vous faites des remplacements, vous, au chemin de la philosophie, vous êtes très corporate, hein, Anastasia Colosimo.
Mais non, mais je l'ai écouté parce que c'était très intéressant à la fois parce qu'on apprend beaucoup de choses. Ce sont des vrais sociologues qui parlent justement du fantasme qu'il peut y avoir.
Du décalage entre la réalité et puis ce qui est ressenti par les populations.
Oui, et c'est très intéressant parce que c'est 40 minutes où des sociologues très avertis disent mais c'est pas du tout ce qu'on pense. Voilà, les villes sont très pauvres et puis il y a des périphéries très riches. Et donc on peut pas. Donc ils ont certainement raison. Et en même temps, on en ressort avec un sentiment qui est toujours un peu le même en ce moment, qui est qu'on se dit, mais en fait, tout ça est fort intéressant, mais il passe à côté de l'essentiel, parce que si, évidemment, la politique ne peut pas complètement se résoudre à juste une question d'émotion, la réalité, c'est qu'il y a une colère. Et que si on ne prend pas en compte cette colère pour ce qu'elle est, c'est-à-dire que si on continue à donner des arguments scientifiques ou pseudo-scientifiques en disant « mais le monde n'est pas tel que vous le pensez, vous êtes plus riche que ce que vous croyez, d'autres gens vont mieux, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer, dans 2 ans ça ira mieux », bref, tous ces arguments en fait qui visent à dire « mais vous ne comprenez pas exactement ce qui vous arrive, nous on sait mieux que vous », et en fait c'est un peu ça toute la logique à la fois de l'explication politique, scientifique, etc., crée un sentiment pour le coup de colère qui peut être tout à fait irrationnel et qui peut se matérialiser parfois de manière un peu nocive, mais que moi je comprends vraiment parfaitement bien.
Mais du coup, est-ce que vous diriez, Anastasia Colosimo, que même si le peuple a tort, il a toujours raison? C'est-à-dire qu'il faut toujours partir
mais
du
vous
principe
savez, vous connaissez
qu'il a
la
raison
citation,
pour,
vous connaissez
pour
la
répondre
citation,
à sa colère.
Vous connaissez la citation de Dostoïevski? Le peuple a
oui,
toujours...
je la connais, mais vous non. allez me la rappeler.
le peuple a toujours raison parce qu'il sait qu'il est coupable. Donc moi, je serais plutôt partisane de dire que, en fait... C'est-à-dire qu'à partir du moment où on décide d'être dans un régime démocratique, on ne peut pas se passer du peuple. Ou en tout cas, on ne peut pas laisser croire au peuple qu'on va gouverner avec lui et ensuite s'en passer. Donc là, il est évident qu'il y a quand même une réconciliation à mener.
Est-ce que le peuple a toujours raison, Pierre Jacquemin? Et est-ce que c'est en tout cas le postulat de base qu'il faut saisir, retenir, pour ensuite essayer d'apaiser ses colères?
En tout cas, la politique, telle qu'elle est menée au sommet de l'État, elle ne peut pas être déconnectée de ce que veut le peuple. Et le peuple, il a été appelé à voter, donc il est amené à choisir des représentants. Et c'est d'ailleurs là où, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a une crise démocratique. C'est-à-dire que le peuple, soit il se met en retrait de la vie politique et donc il s'abstient. Il y a eu quand même un phénomène d'abstention qui est quand même assez important. Soit, effectivement, il rentre dans une colère. Mais quand même... Emmanuel Macron, la méthode d'Emmanuel Macron, elle a été effectivement de casser la vie politique, ou en tout cas de la remanier, mais aussi de fragiliser la démocratie sociale. Et alors que les syndicats étaient quand même pas dans une très très grande forme, aujourd'hui on voit bien que les syndicats ont perdu tout le pouvoir de négociation. Il n'y a plus de négociation dans ce pays, il n'y a plus de dialogue social, les syndicats n'ont plus d'interlocuteurs. Il y a des consultations, on entend Emmanuel Macron nous expliquer qu'il y a 50 réunions qui ont été menées pour faire les différentes réformes qu'il a pu conduire jusqu'à maintenant, mais il n'y a plus de pouvoir de négociation. Donc aujourd'hui les syndicats et les partis politiques ont été totalement dépassés.
Mais ils n'ont pas une part de responsabilité quand même aussi?
Si, bien sûr, ils étaient déjà très largement fragilisés. Donc il y a un problème de connexion avec les citoyens. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, à travers une revendication qui est une revendication très concrète, qui est celui du pouvoir d'achat, à travers justement la demande de baisser les prix du carburant à la pompe, il y a quelque chose qui est de l'ordre de où ça me parle, ça touche à mon quotidien. Et donc, oui, ça me paraît logique de répondre à l'appel de cette mobilisation. Mais encore une fois, il faut faire attention. Et c'est là où aujourd'hui les politiques ont une responsabilité. Quand j'entends Emmanuel Macron, par exemple, nous expliquer qu'il y aurait une France, là aussi, qui serait pro-écologique, en tout cas, qui aurait des volontés écologiques, qui aurait une conscience écologique et qui aurait les pro-carburants de l'autre, là, il joue à un jeu qui me paraît pas très sain, en tout cas, sur un plan démocratique. On sait très bien qu'Emmanuel Macron, il a qu'une volonté, c'est d'opposer les responsables, les gens sérieux qu'il incarne, ou alors l'option des extrêmes, comme on peut le voir un peu partout dans le monde. Et aujourd'hui, il se présente comme étant le seul rempart de l'extrême droite, Emmanuel Macron. Et alors qu'il ne propose pas, en tout cas les solutions qui sont exigées par les Français ne sont pas au rendez-vous, il continue dans cette ligne politique, et c'est ça qui est problématique. Ça veut dire qu'il nous a dit hier encore qu'il écoutait le peuple, mais il l'écoute simplement.
J'allais y venir justement. Emmanuel Macron, il a quand même fait une sorte de mea culpa sur TF1, c'était hier ou avant-hier. Non, je crois avant-hier. Que c'était avant-hier, hein, c'est ça. Il était sur le Charles de Gaulle en disant notamment ceci. Alors, je n'ai pas réussi à réconcilier le peuple français avec ses dirigeants. Nos concitoyens aujourd'hui veulent trois choses, qu'on les considère, qu'on les protège, qu'on leur apporte des solutions. La considération, on ne l'a sans doute pas assez apportée. Ce qui rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, Laetitia Stroche-Bonnard, à propos de ce mépris qui peut être ressenti par une partie des Français. Mais est-ce que ça veut dire, et alors la question là encore ça s'adresse à vous trois, que c'est d'abord un problème de méthode qui est mis en cause, ou bien est-ce que c'est la politique même, c'est-à-dire les projets de réforme qui sont contestés? Manifestement, Emmanuel Macron n'a pas l'intention de revenir sur le fond des réformes. Il fait l'analyse que c'est la façon, en fait, de les vendre qui pose problème. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, vous, Laetitia Stroche-Bonnard?
Non, je ne suis pas d'accord. Je pense que d'abord, c'est assez superficiel parce qu'on parlait du peuple tout à l'heure. Le peuple français est compliqué. Parce que le peuple français veut des choses contradictoires aussi. Il veut baisser les impôts, mais comme je disais tout à l'heure, il ne veut pas forcément baisser les dépenses publiques. En tout cas, personne n'est d'accord sur le type de dépenses publiques qu'il faudrait baisser. Quand on décide d'en baisser certaines, eh bien, certains intérêts se manifestent pour s'y opposer. Et je pense que l'erreur de ce gouvernement, c'est de ne pas avoir pris en main cette complexité. Il faut la prendre au sérieux, il faut trouver un moyen de l'anticiper et d'y répondre quand elle s'exprime.
Mais est-ce que c'est en changeant de politique plutôt qu'en changeant de façon de faire de la politique?
Alors j'y viens. Sur la politique en question, il y a deux solutions. Soit on change de politique et on décide de baisser radicalement les impôts, mais ça c'est un autre programme et c'est pas du tout ça qu'il avait promis de faire et c'est pas pour ça qu'on l'a élu. Soit, si on parle de politique énergétique, ça demande beaucoup plus d'ambition. On a l'impression qu'il a jeté cet impôt comme ça. D'ailleurs, c'est un impôt qui ne remplit pas son objet parce qu'un impôt ne peut pas avoir deux objectifs. Soit vous voulez faire changer les gens de consommation, soit vous voulez remplir les caisses. On voit qu'avec cet impôt, il veut faire les deux, donc ça veut dire que c'est un mauvais impôt. Il n'y a pas de réflexion profonde. Une politique écologique, ça doit être quelque chose de très réfléchi, de long terme. Ça doit aussi toucher les entreprises. Ça doit aussi peut-être poser la question du prix du carbone. Enfin, toutes ces questions qui sont réfléchies par énormément de gens aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est très superficiel, en fait, cette approche.
Pierre Jacquemin ?
Oui, je suis assez d'accord sur la superficialité et surtout l'absence de vision finalement d'Emmanuel Macron. On pouvait imaginer qu'Emmanuel Macron était un intellectuel parce qu'il s'est présenté avec beaucoup de références intellectuelles, c'est un littéraire, il aime beaucoup la littérature, etc. Et donc moi j'ai même pensé à un moment donné qu'effectivement il y avait un véritable projet, une véritable conviction qui était la sienne, une conviction très libérale certes, mais finalement on s'aperçoit que la ligne politique qu'il conduit aujourd'hui au gouvernement, et on voit bien aujourd'hui qu'à chaque moment de crise, il y a une rustine qui est posée. Et effectivement, là, on a bien vu que dans la précipitation d'une mobilisation qui naissait, il y a eu une volonté de trouver des solutions, et donc on a proposé d'élargir le chèque énergétique. Enfin, tout ça semblait très presque amateur, en fait. Et donc, ça pose la question de la ligne politique d'Emmanuel Macron et la stratégie qui est la sienne. Je vois quand même en Emmanuel Macron un gestionnaire. Il a une obsession. C'est la même obsession.
Plus qu'un idéologue.
Oui, je pense que il a quand même une obsession gestionnaire, Emmanuel Macron. Son obsession, c'est vraiment de réduire les dépenses, de réduire la dette, le cap qui est fixé par l'Union européenne. Et aujourd'hui, ça n'est pas entendable. Les gens ne peuvent pas entendre, alors qu'on crée beaucoup de richesses, que seuls les Français sont taxés au portefeuille, alors qu'effectivement, on l'a entendu partout ces dernières semaines, effectivement, le kérosène, l'aviation, le milieu maritime n'est pas taxé. Là où il y a des... Et en plus, ce sont les plus gros pollueurs, souvent. C'est ceux qui détruisent le plus la planète. Donc, c'est là où il y a une prise de conscience, je pense, globale, d'une... à la fois des inégalités sociales, mais en plus de ça, d'une fausse politique. Emmanuel Macron ne mène pas une politique écologique aujourd'hui. Ça n'est pas compatible. D'ailleurs, Nicolas Hulot l'avait lui-même dit, on ne peut pas continuer la politique économique qu'on conduit et qu'on mène au gouvernement, tout en se revendiquant de l'écologie.
C'est en changeant la ligne politique ou c'est en changeant le style qu'il faut tenter de répondre d'abord à cette colère des Gilets jaunes, Anastasia Colosimo?
Sur la question du fond, sur la question du programme des réformes, disons que, il a été élu, quoi. Donc ensuite, on peut ne pas être d'accord. Moi, je serais effectivement sans doute moins libérale. Je crois beaucoup dans le service public. Je pense que la France est quand même un pays de solidarité. Bref. Mais ça, à la limite, j'ai envie de dire, c'est un peu subjectif quand même. Il y a une question de forme, en revanche, qui, pour le coup, je pense, est beaucoup plus objectivable, beaucoup plus globale, pour le coup. Et cette question, et cette, ce problème de forme, pour moi, il tient exactement à ce qui a été dit, c'est qu'on a affaire à un super énarque, en fait. On a affaire à un super énarque et on a affaire à un gouvernement dont on doute de l'empathie. Et encore une fois, je pense qu'il y a aussi de la rationalité en politique, mais il y a aussi toute une très grande part irrationnelle. Je pense que surtout on traverse une période en ce moment, particulièrement en Europe et dans le monde occidental, de véritables crises, et que on a besoin aussi d'une empathie, d'un véritable charisme dont on a pu penser à un moment et croire que Macron pouvait l'incarner. Et je trouve qu'il y a une déception de ce point de vue-là. On a envie, effectivement, de quelque chose d'un peu plus radical, parce que la réalité, c'est que tout ce qu'on a eu pour l'instant n'a pas très bien marché face aux grandes questions que nous ont quand même posées la mondialisation, face aux surtout grands problèmes qui sont venus avec la mondialisation. Et on cherche quelque chose, effectivement, de plus radical, de plus chaud aussi, hein, au sens de la chaleur humaine. Et là, on a l'impression, quand même, effectivement, de manque de cette chaleur.
Pierre-Jacques Mar. Très rapidement sur la forme, parce qu'effectivement, il y a le style Emmanuel Macron, on parle de mépris, mais parce qu'il y a véritablement un mépris, il ne sait pas. Il avait lui-même dit, quand il a présenté son plan pauvreté, qu'il venait de se rendre compte ce que c'était, en fait, de vivre dans la pauvreté 14 mois après avoir pris ses fonctions. Mais il faut quand même aussi
on
se rappeler que...
On ne va pas lui reprocher non plus de jamais avoir été pauvre.
Non, il ne s'agit pas d'avoir été pauvre, mais il s'agit de comprendre et de savoir quel est le quotidien d'un Français qui vit au SMIC ou une femme, par exemple, retraitée, qui vit avec une indemnité de 500 ou 600 euros. Et ça, aujourd'hui, c'est une réalité qu'il n'a pas en tête quand il décide de faire la réforme ou de ponctionner encore plus les retraités, c'est qu'il n'a pas conscience de la manière dont vit un retraité. Et pour finir sur cette question de forme, il faut quand même se rappeler que, bon, je l'ai dit il y a un instant, il a quand même pas aidé les syndicats à exister et à pouvoir mener des négociations véritables. Mais il faut aussi se rappeler que quand même, sur des lois comme la loi travail, qui sont des lois très structurantes et qui vont changer profondément le quotidien des Français, il y a eu un déni de démocratie, même si ça fait partie de la Constitution, les ordonnances. Il n'y a pas eu de débat parlementaire. Il n'y a pas de débat parlementaire. Il n'y a absolument pas eu de débat parlementaire. Et c'est quand même un problème que les députés, les représentants de la nation, pardon, n'aient pas été associés à ce débat, qui est quand même un débat très important.
Il n'y a pas eu de débat parlementaire, il n'y a pas eu non plus beaucoup de mobilisation sociale autour de cette deuxième loi travail. On parle beaucoup, évidemment, puisqu'on est dans un mouvement social français de la France et de celui qui la préside, Emmanuel Macron, mais est-ce que ça ne s'inscrit pas aussi dans un malaise un petit peu plus général? Dans l'opinion, cette semaine, le sociologue Michel Wieworka dit ceci: partout dans le monde, nous sommes dans un moment où la conscience de construire du neuf est envahi par la nécessité de purger la société de ce qui formait le système antérieur. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une espèce de mouvement ou de réaction par rapport à ce qu'on pourrait qualifier d'excès de ce qu'a pu être la mondialisation, à la fois sur le plan économique et puis à la fois sur des questions plus sociétales ou des questions culturelles, Laetitia Strauss-Bonnard?
Alors là, je pense être beaucoup plus libérale que vous, donc je n'ai pas vraiment cette analyse. Je pense que déjà, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Aujourd'hui, les pays qui dépensent plus pour leur état social sont les pays les plus libéraux. Aujourd'hui, les pays qui dépensent le moins sont des pays souvent peu démocratiques, où il n'y a pas de croissance, pas de prospérité, donc rien à dépenser. Donc ça, on a tendance à l'oublier quand même, qu'on doit ça à la mondialisation, qu'on doit ça au libéralisme économique. Donc c'est important de le rappeler. Ensuite, il y a une révolte, et il faut l'entendre. Donc je peux être à la fois libérale et penser que c'est la meilleure forme d'échange qui soit, et reconnaître qu'il y a de fortes résistances. On l'a vu aux États-Unis, et c'est évident qu'aujourd'hui la politique commerciale de Donald Trump est complètement conforme à cette envie de fermer les frontières commerciales ou de les fermer davantage.
Voilà, on voit bien qu'au niveau électoral, il y a quand même de nombreux succès dans un certain nombre de pays, discours nationalistes.
Exactement pareil. Alors Brexit, c'est très compliqué parce qu'il y a aussi la question de l'immigration, mais quand même, c'est la question du rattachement de la Grande-Bretagne au marché commun et l'idée qu'en tout cas, il faut récupérer sa souveraineté pour décider avec qui on commerce et comment. Donc je suis tout à fait d'accord pour reconnaître ça. Après, on sait très bien que sur le moyen long terme, c'est très très nuisible pour les pays, parce qu'aujourd'hui aux États-Unis, il y a certains biens dont les prix augmentent. Et ça n'est au bénéfice de personne. La canette de Coca-Cola aujourd'hui aux États-Unis, elle a augmenté. Et ça touche les électeurs de Donald Trump. Donc ce qui est compliqué avec ces enjeux, c'est qu'on a l'impression que des réponses très simples vont tout régler, alors que nous vivons dans un monde tellement interdépendant que ce sera beaucoup plus compliqué.
Est-ce que ce sont aussi des réponses, alors mettons à la Trump, ou à la Brexit, disons Anastasia Colosimo, qui peut être attendue par rapport à une colère comme celle qui s'exprime avec les gilets jaunes?
Bah, je pense que c'est juste cette même colère, mais passée par les urnes. Que ça soit le Brexit, l'élection de Donald Trump, mais même quand même, enfin, on a tendance à l'oublier, mais enfin, le premier tour des élections présidentielles en France, ça a été d'une tension extrême quand même. On avait Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon à 20% chacun quasiment, et c'était voyez, il y avait quatre partis, tout le monde était extrêmement tendu. Ça s'est terminé comme on sait, mais enfin bon, le climat était quand même pas des plus sympathiques. Donc évidemment qu'à un moment, ça finit toujours par rejaillir sur les urnes, c'est une évidence. J'aimerais revenir aussi sur cette question.
Sachant que les urnes, elles approchent là avec les européennes, évidemment.
Oui, avec les municipales ensuite, et évidemment. Bon, les européennes, ça va vraiment être... Bref, passons, ça n'est pas le sujet. Mais pour revenir sur le libéralisme économique, en fait, il y a une vraie... je pense qu'il y a une forme de décalage aussi, effectivement, dans ce qui a été... Il y a eu une promesse de la mondialisation, il y a eu une déception de la mondialisation aussi, parce qu'elle a servi certains et pas d'autres. Je pense que ça joue quand même quelque part. Et aussi cet argument qui sans doute, peut-être, moi je ne suis pas économiste, je ne sais pas, mais on peut sans doute dire effectivement les pays se sont enrichis, tout va mieux. Mais en fait, paradoxalement, très très paradoxalement, à la fois il y a une vraie volonté, ou en tout cas il y a une vraie colère des pauvres parce qu'ils sont pauvres et parce qu'ils veulent augmenter leur pouvoir d'achat, etc. Mais très paradoxalement, il y a aussi d'autres choses qui rentrent en compte et qui, là, sont complètement décorrélées du portefeuille. Et c'est les questions d'identité et c'est même la question de la souveraineté. C'est-à-dire qu'on peut très bien voir que certaines personnes veulent plus de souveraineté, même si quelque part, ça les arrange moins financièrement. Et ces dynamiques-là, elles sont très importantes parce que, du coup, on est obligé d'avoir un discours un peu différent et de prendre en compte ces phénomènes-là.
Je suis entièrement d'accord avec vous. L'économie n'est pas tout. D'ailleurs, même les bénéfices économiques, on ne les voit pas, alors que les désavantages économiques, on les voit, parce qu'ils touchent certaines personnes, certaines industries. Donc évidemment, c'est très regrettable. On ne peut pas les mettre sur le même plan. Sur l'aspect politique, culturel, je suis entièrement d'accord avec vous. Et je dirais même que plus on nie ces volontés-là, cette aspiration à l'identité, à la reconnaissance de certaines cultures, de certains héritages, plus on les exacerbe, en fait.
Mais ça, c'est évident.
Bien sûr. Et j'ai l'impression qu'Emmanuel Macron n'a pas compris ça.
Pierre Jacquemin, c'est aussi sur le terrain de l'identité qu'il faut apporter des réponses à ce type de colère.
Je ne le crois pas. Je crois en revanche que la mondialisation, d'une manière générale, a produit de la dérégulation. Et c'est ça qu'on est en train de vivre. C'est une dérégulation généralisée. Et effectivement, cette tentation du fascisme, hein, il y a un très bon livre qui vient de sortir d'Hugo Paletta qui s'appelle « La tentation des fascismes », elle est présente, on le voit aux quatre coins du monde. Aujourd'hui, cette volonté effectivement d'un repli identitaire, d'un repli des frontières, cette peur de l'étranger, cette haine de l'étranger parfois... doit nous interroger, doit nous inquiéter. Enfin, en tout cas, moi, elle m'inquiète personnellement, puisqu'on voit bien que les violences émergent un peu partout, les violences sociales, les violences physiques aussi, hein, les agressions homophobes, les agressions sexuelles, sexistes, etc. Mais d'une manière générale, quand même, si on analyse les différents régimes, les différents systèmes des grands pays démocratiques, on voit bien qu'il y a cette obsession, et il y a ce jeu aussi qui consiste à dire il faut faire barrage à l'extrême droite, et donc c'est notre principale préoccupation, et il faut sauver la démocratie. Et donc face à ça, aujourd'hui, on crée des systèmes politiques où on met les centristes autour des deux rives, des centristes de gauche et centristes de droite, et on conduit des politiques de compromis. Et ces politiques de compromis, aujourd'hui, ont abouti à un échec. C'est l'échec de la social-démocratie, c'est l'échec de l'Union européenne, et c'est la nécessité, vous l'avez dit il y a un instant, la nécessité, je pense, que les gens attendent ça, de la radicalité. On a besoin de radicalité. On a besoin de radicalité dans les décisions politiques. Les gens ont envie que leur vie change radicalement. Ça veut dire mieux vivre, ça veut dire prendre des décisions qui vont avoir un impact réel sur leur quotidien. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. Et on voit aujourd'hui un
Est-ce
peu émerger...
Est-ce que c'est ce qui manque d'ailleurs dans la réponse qu'apporte la gauche? Enfin, je ne sais pas s'il faut dire d'ailleurs la gauche
non, mais
aujourd'hui,
Vous avez raison de poser cette question, parce que ce qui manque aujourd'hui à la gauche, ce qui a manqué à la gauche, c'est pour ça qu'elle a, je pense, trahit beaucoup de ses idéaux et beaucoup de ses électeurs, c'est cette absence de volonté, cette absence de vision, cette absence de rêve politique aussi qu'on doit avoir quand on fait de la politique. Et je pense que cette absence de radicalité. Augmenter les salaires, c'est radical. C'est-à-dire qu'on peut le faire et les gens en ont besoin. C'est juste une question de survie. Donc c'est des décisions qui doivent être prises au niveau politique. Et la gauche, effectivement, s'est dessaisie de cette radicalité. Elle est tombée dans le compromis, elle est tombée dans le consensus que ce que produit l'Europe aujourd'hui. Et je finis juste là-dessus. On voit bien qu'aujourd'hui, des mouvements comme... J'ai entendu Place Publique, le livre de Raphaël Glucksmann, par exemple. il remet la radicalité au cœur du projet. Il dit il faut remettre de la radicalité en politique. Il s'agit pas de devenir des extrêmes.
Je vois pas pourquoi
il est là, la radicalité.
Jean-Luc Mélenchon, il est là.
Bien sûr qu'il est là. Bien sûr, Jean-Luc Mélenchon propose de la radicalité. Bien sûr qu'il est là, mais il n'est pas encore en responsabilité. Ce que je dis, c'est que ceux qui gouvernent aujourd'hui sont dans le consensus et le compromis total. Et c'est ça qui conduit aujourd'hui à la désespérance sociale et parfois conduit à, effectivement, à se tourner du côté du Front National.
Il y a quand même une forme d'incongruité aujourd'hui par rapport à ce mouvement des Gilets jaunes. C'est-à-dire c'est une colère sociale qui, a priori, devrait être portée plutôt par la gauche, comme ça a pu être le cas, par exemple, en 1995, avec les grandes grèves autour des lois Juppé. Pourquoi est-ce que la gauche semble, non pas absente, mais en tout cas aussi mal à l'aise, finalement, avec ce mouvement, Laetitia Strauss-Bonnard ?
D'abord, elle est certainement mal à l'aise parce que le mouvement ne vient pas d'elle. Et la gauche est toujours, en tout cas la gauche instituée,
alors pourquoi est-ce qu'il vient
toujours
pas d'elle
mal à l'aise.
Alors, pourquoi est-ce qu'il vient pas d'elle?
Et déjà parce que les gens n'ont pas forcément envie de placer dans leur destin dans les organisations de gauche qui existent aujourd'hui. C'est pour ça que je suis un petit peu en désaccord avec vous, parce que même la gauche qui se prétend radicale, à mon avis, aujourd'hui, ne répond pas aux besoins d'énormément de personnes qui ont peut-être voté à gauche avant, qui ne votent plus et qui ont l'impression que s'ils s'expriment directement, eh bien ce sera beaucoup plus efficace. Donc la gauche n'est pas, elle n'est pas en symbiose avec ce mouvement-là. Et puis tout à l'heure, on parlait d'identité. J'ai l'impression aussi que la gauche se méfie. Dès qu'on commence à parler d'identité, dès qu'on commence à parler de culture, la gauche se dit « Oh mon Dieu, on va fermer les frontières, c'est affreux. » Et c'est toujours cette idée que le patriotisme, par exemple, serait la même chose que le nationalisme. Quand on veut un petit peu définir, ne serait-ce que l'existence d'une identité, eh bien, c'est très, très dangereux parce que ça va nous conduire au populisme ou au fascisme. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Je pense que plus on dit ça, plus les gens se radicalisent. Donc en plus, c'est une prophétie autoréalisatrice.
On peut d'ailleurs conseiller à ce sujet le dernier livre de Nathalie Hennig, « Ce que n'est pas l'identité », où elle essaie justement de dépolitiser un petit peu cette notion. Anastasia Colosimo, sur le malaise, disons, de la gauche par rapport à un mouvement comme celui-ci.
Bah, je pense que la gauche a trahi le peuple depuis très longtemps, si vous voulez mon opinion personnelle.
Oui, c'était l'objet de la question.
Je pense qu'elle a trahi le peuple il y a très longtemps. Je pense que
et
tout
que
ce qu'on appelle,
s'en rend compte aujourd'hui.
Il s'en rend compte depuis un bout de temps. Il y a un tas de décisions. Tout ce qu'on appelle aujourd'hui très grossièrement les populismes sont juste un réveil en fait des peuples qui ont l'impression qu'ils se sont fait avoir depuis bien longtemps par des gens de gauche qui étaient censés servir leurs intérêts et qui au lieu de ça étaient occupés soit à servir leurs propres intérêts, soit à servir les intérêts différentes minorités, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas non plus servir les intérêts des minorités, mais enfin, il y a eu un remplacement total à gauche des luttes, c'est-à-dire qu'on est vraiment, à mon avis, passé de la lutte des classes, qui est quand même au cœur, normalement, du programme de la gauche, à la lutte des races, la lutte des religions, etc., et que dans ce processus-là, bah, évidemment, le peuple ne s'y reconnaît plus. Et je pense que toute une partie de la gauche institutionnelle, en plus, méprise assez fortement le peuple, parce que le peuple, ça pue, parce que le peuple, parfois, c'est de droite, parce que le peuple, ça parle d'immigration, parce que le peuple, ça sent mauvais, ça sent l'essence, ça prend la bagnole, ça mange du saucisson, et que la gauche des villes, elle n'est pas très à l'aise avec tout ça, parce que... c'est la gauche. Je pense que d'ailleurs, il faudrait faire une belle analyse de la manière dont la gauche caviar partout en Europe a joué dans la montée de ce que cette gauche caviar aujourd'hui appelle les populismes.
Voilà une autre façon de voir les fractures françaises en fonction des odeurs hein, qui sont dégagées par les uns et par les autres.
Et la droite camembert.
Et il vous reste 30 secondes pour conclure, Pierre-Jacquemin.
Non, je suis assez d'accord avec l'analyse qui vient d'être faite. Là, je m'interroge quand même sur la stratégie populiste de gauche, parce qu'aujourd'hui, le eux et le nous me paraît pas être une analyse ou qui nous permet justement de déboucher, d'aboutir sur un projet politique qui soit un projet politique cohérent. Le eux et le nous, Marine Le Pen, elle est capable de le dire. Et dans le eux et le nous, dans le eux, il y a aussi les étrangers. Et donc la question migratoire, qui est aujourd'hui au cœur des élections européennes et qui doit pas justement être laissée vacante par la gauche, elle doit répondre à cette question. Il s'agit quand même d'assumer aussi une politique et s'assumer de gauche, c'est aussi se rappeler à une histoire, se rappeler à des valeurs. Et je crois que la stratégie de populiste de gauche, en tout cas, moi, me pose question.
Eh bien, merci beaucoup à tous les trois, Laetitia Strauss-Bonnard, Anastasia Colosimo et à notre invité du club cette semaine, Pierre-Jacquemin. Le prochain numéro de Regard.
Et il sort là en janvier, c'est sur la catastrophe.
Là en janvier, j'aime bien cette notion du temps très relatif.
On est en trimestriel, donc là en ce moment il est en kiosque, c'est sur l'Union Européenne, et le prochain sera en kiosque en janvier sur la catastrophe.
Merci beaucoup, merci à l'équipe du Grain, Antoine Dulster, Leïla Saïdi, Fanny Richer, Virginie Leduo et Guillaume Laguigné. Émission réalisée par Alexandre Fougeron, à la prise de son ce soir au Bel Air. Laurent Binder, Éric Carrère et Cédric Chatelu.